Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte.
Une volonté et une détermination de faire, c'est ce qui marque le plus chez Anita, que j'accueille aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Anita.
Bonjour Charlotte.
C'est une femme qui a eu plusieurs vies en une. 15 fois championne de France de natation, finaliste aux Jeux paralympiques de Rio. Je ne peux pas tout citer, mais le palmarès est vraiment exceptionnel. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas naviguer dans les eaux bleues des piscines, mais grâce à toi, nous allons escalader l'Himalaya puisque tu vas nous faire revivre tes derniers défis, ceux que tu as relevés. Et l'année dernière, tu as même fait le trek debout grâce à la marche assistée. Petit teasing, à la fin de ce podcast, Anita nous dira quel est son prochain défi et c'est assez fou. Pour poser le contexte médical, tu as une cèpe depuis 34 ans. C'est désormais une forme progressive avec de grosses faiblesses musculaires pour lesquelles tu as été en fauteuil roulant pendant 17 ans, mais aussi des douleurs, des symptômes cognitifs, auditifs, de légers troubles de l'équilibre et de la miction. Malgré ça, tu as été championne de natation durant 10 années à haut niveau. Le sport pour toi, c'est vital ?
C'est vrai, le sport c'est complètement vital pour moi. Il a permis de soigner une dépression, loin d'imaginer que j'allais atteindre ce niveau-là.
Et finir sur les podiums.
Voilà.
Physiquement, quand on a une cèpe, qu'est-ce que ça apporte ?
Eh bien en fait, donc, à ce moment-là, j'étais lourdement handicapée. Et au fur et à mesure des mois et des années, on a pu constater que j'avais récupéré certaines petites parties, que j'avais réussi à repousser cette fatigue. Hein, c'est pas cette fatigue de la sclérose en plaques où vous avez l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui vous passe tout le temps dessus. C'était vraiment une fatigue physique de faire du sport, hein, tout simplement. Et puis surtout, j'étais beaucoup mieux.
Et psychologiquement ? Ça fait un bien fou aussi et ça recrée du lien social.
Ben c'est ça, en fait, j'étais loin d'imaginer que j'allais aller vers le haut niveau. Hein. Donc, et quand j'ai commencé à atteindre le championnat de France et tout, je me suis entraînée plus ardument. Et donc là, j'allais à la piscine tout le temps, tout le temps. Et deux fois par jour. Et forcément, ben, on rencontre plein de gens, on discute avec plein de gens. Et ça, ça fait un bien fou. Voilà, parce qu'on ne parle pas de maladie, mais on va parler de sport, on va parler de compétition. Et ça, c'est juste génial.
Ouais, c'est la vraie vie.
Ouais.
Tu m'as dit un jour, le sport stabilise non seulement la maladie, mais c'est aussi un moteur pour gagner le plus beau des combats, celui de la vie. C'est toujours ta vision de l'activité physique ?
Eh mais oui, c'est toujours le cas. Chaque jour, chaque matin que je me lève, je fais un pas, c'est toujours un pas gagné, tout le temps. Donc c'est quelque chose, c'est une ligne de conduite que je me fixe.
C'est dur de se motiver, je pense notamment aux patients qui ont des douleurs, d'épuisement, des paralysies. Que conseilles-tu à ceux qui ont du mal à se mettre au sport ?
Il faut redémarrer très, très progressivement. Déjà, il faut aller voir le médecin MPR ou le médecin neurologue, hein, dire son projet. Donc déjà, il faut redémarrer par de la rééducation, réactiver. Ça, c'est pour les gens qui ne bougent quasiment pas. Réactiver le corps, parce qu'en rééducation, c'est ce qu'on fait. Ensuite, se diriger vers les centres APA, c'est le sport par ordonnance, hein, activité adaptée. Et donc là où on va démarrer une vraie activité sportive en douceur. Et ça, il ne faut pas l'arrêter. Il faut continuer et après continuer tout seul. Ne jamais, jamais s'arrêter.
La clé, c'est effectivement d'être un peu plus actif progressivement et pas de faire du sport intensif pour le payer pendant 3 jours.
C'est ça.
En 2018-2019, tu réalises tes 2 premiers treks en fauteuil à une altitude de 5200 et 5650 mètres, ce qui demande déjà un dépassement de soi exceptionnel. Là, nous allons parler de ton dernier trek que tu as fait debout sur tes 2 jambes. Non, ce n'est pas un miracle, mais ce sont les progrès de la technologie qui l'ont permis grâce à un système de contrôle de la marche. Tout d'abord, est-ce que c'est la même chose qu'un exosquelette, terme qui est peut-être un peu plus connu du grand public ?
Non, ce n'est pas du tout la même chose qu'un exosquelette, Charlotte. Donc, mon orthèse, la C-brace, hein, elle s'appelle la C-brace. Donc, c'est une orthèse métraconique. Donc, Il y a donc sur le microprocesseur, donc il y a des capteurs intelligents, il y a un vérin hydraulique, il y a les capteurs intelligents, c'est ce qui est le plus important. En fait, ils détectent la position dans laquelle je suis, debout, en phase d'appui, la marche en fait, hein, ou la phase pendulaire, et avec un système de sécurité. C'est-à-dire que si elle me voit en danger, la jambe elle se bloque de manière que je reste sur place. Hein. Donc ça, c'est super important parce que ça m'a déjà sauvé plusieurs fois de la chute. Et donc j'ai aussi une application sur mon téléphone où je peux demander plus ou moins d'assistance.
C'est un dispositif qui doit être apprivoisé. Tu as dû réapprendre à marcher, ça a pris du temps puisque tu t'es entraînée près d'un an et demi. Ça semble sidérant, tu peux nous raconter ?
La première chose, c'était de se remettre debout, retrouver la verticalité. Pas une mince affaire, hein. Donc mon orthopédiste m'a mis des orthèses fixes et en fait c'était juste l'horreur parce que moins d'une minute j'avais le tournis, j'avais la nausée, enfin il fallait que je me rassoie, c'était vraiment très très difficile. Après il y a eu la marche entre les barres, donc là aussi c'était un travail qui était physique, mine de rien pour faire 5, 6 pas, 10 pas, et malheureusement après il y a eu le Covid. Donc là c'était en visio avec mon orthopédiste, ma kiné, malgré tous les cabinets fermés et tout ça, elle venait chez moi, donc avec les distances, elle ne me touchait pas, hein, mais elle me disait ce que je devais faire, elle me corrigeait, enfin voilà. Et ça a été très compliqué, mais au final, on a réussi.
Impressionnant. Et est-ce que tout le monde peut en bénéficier ou est-ce réservé aux sportifs de haut niveau ?
Alors, ce n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau. Oui, tout le monde peut en bénéficier, mais attention, quelqu'un qui est complètement sédentaire, c'est même pas la peine. Parce que ça demande du travail, ça demande quand même beaucoup d'efforts.
Et une volonté de marcher
c'est
à
ça,
tout prix.
Exactement. Après, il ne faut pas être paraplégique. Oui. Hein, si vous êtes complètement paraplégique, les accidentés, je pense, hein, la moelle épinière, c'est pas la peine. Quand même un minimum de muscles. Il y a un testing hein, à faire hein, avec le neurologue, la kiné, tout ça, pour voir ce qui reste encore.
Il y a une prise en charge financière de la CPAM parce que j'imagine que le dispositif a un coût élevé.
Ben oui, hein, c'est de la nouvelle technologie, il y a de la recherche, évidemment que c'est un coût élevé. À ce jour, il n'y a pas de prise en charge, mais là, en fait, il y a un dossier qui a été déposé à l'ARS, la Haute Autorité de Santé, hein, pour une demande de prise en charge. Et normalement, courant 2024, il devrait y avoir une prise en charge pour cela.
Allez, on part au Népal. Comment s'est passé ce trek réalisé en septembre dernier ?
Alors déjà, il faut que je vous parle des Népalais. C'est la première fois que je m'exprime vraiment autant devant un micro. Et donc, voilà, les Népalais sont des gens mais fabuleux, d'une gentillesse. J'ai pas de mots pour les décrire. Ils sont tellement, tellement gentils. Enfin, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Et voilà, et ils sont tout le temps près de vous à savoir si vous allez bien, si vous manquez de rien, enfin, alors qu'ils n'ont rien, quoi. Physiquement, c'était difficile. Hein. Il faut savoir que ça faisait que 8 mois, j'avais donc ma C-Brace. Et donc, il y avait 250 km à parcourir hein, sur ce trek. Moi, j'ai fait 95 km environ, que l'équipe, Kamel, Audrey, qui a la sclérose en plaques, qui est venue avec nous, hein, et puis ma kiné, et Sandrine, eux, ils ont monté les 3000 marches hein, sur une journée, quoi. Et moi, en fait, j'ai pu faire, en faisant des pauses, en étant portée, montée, j'ai fait 1300 marches au total,
c'est
quand même,
énorme.
Sur la journée. Mmh. Ouais, c'est la médaille que j'ai pas eue au jeu, en fait.
Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée durant ce trek ?
Tout était difficile. Alors, je sais pas si c'est difficulté ou déception. En fait, donc pour aller chercher les 5020 mètres, et quasiment toute la journée, j'ai marché. Et en fait, il restait, je crois, 500 mètres à parcourir, même pas. C'était que de la roche. Et il faut savoir qu'avec mon dispositif, je ne peux pas mettre une jambe à droite, l'autre à gauche.
Ouais, c'est pas
faut
adapté.
Faut que le pas il soit vraiment en face. Et donc, du coup, là, j'ai dû être portée pour arriver au sommet. Et là, ça a été hyper difficile pour moi parce que c'était comme si je n'avais pas réussi. Et en fait, Purna, le chef Sherpa, il me dit, Anita Didi, alors Didi, ça veut dire ma sœur, hein, demain, autre sommet, 4 950 mètres. Mais là, tu vas marcher. Et le lendemain, donc, on est reparti. En nombre d'heures, ça a duré, je crois, 7 heures sur la journée, la montée et descente. Hein. Et, mais j'ai été au bout. Et là, j'ai réussi.
C'est exceptionnel. Mais où est-ce que tu puisses la force de te dépasser autant ?
C'est le mental, Charlotte. C'est dans ma tête. Si j'ai pas un projet, c'est comme si que j'allais perdre quelque chose ou je me laisse aller et que c'est terminé pour moi. Et du coup, je me lance toujours des projets, toujours des trucs un peu fous. Et du coup, je m'entraîne beaucoup pour ça. Et dans la tête, il faut que j'y arrive. Il faut vraiment que j'y arrive.
C'est une question de vie ou de mort, presque.
C'est ça. L'histoire, c'est que j'avais vu un monsieur atteint de la sclérose en plaques, Julien. Et donc, il avait fait le Kilimandjaro avec un exosquelette. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ce qu'il me faut.
Aurais-tu des conseils pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient développer leur capacité à aller au bout d'eux-mêmes ? Parce que ce n'est pas simple avec l'épuisement, les symptômes, la vie professionnelle, familiale.
Il y a une chose à faire, je le conseille tout le temps, c'est de mettre sur papier ce qu'on veut faire. D'un côté, ce qui est réalisable, de l'autre, ce qui n'est pas réalisable. Et toujours se fixer des objectifs en ayant des critères par rapport à ses capacités physiques. Un projet en disant, ben, ça sera le mois prochain. Moi, mes projets sont toujours fixés un an, voire deux ans avant. Et là, je pense à une dame, si elle nous écoute, elle va se reconnaître. Donc, j'avais conseillé sur du sport parce qu'elle avait son Everest à elle à faire. Et donc, du coup, elle s'est entraînée pendant plusieurs mois et elle me disait, mais Anita, en fait, c'est trop génial. Au plus je marche et au plus j'ai envie de marcher. Donc, elle était fatiguée, elle avait son lot aussi de douleurs, hein, mais elle y allait, elle trouvait du plaisir à ce qu'elle faisait. Et en fait, cette dame, donc, l'été dernier, elle a fait la dune du Pila, et elle dit, tous les gens, ils étaient en train de redescendre, elle dit, moi, j'étais même pas arrivée en haut de la dune, mais elle dit, c'est pas grave, Anita, elle dit, quand je suis arrivée en haut, elle dit, j'ai écarté les bras, elle dit, ah, j'y suis arrivée, j'ai mon Everest.
Alors, j'ajouterai un conseil de coaching, de faire un pas après l'autre. Et souvent, on n'ose pas parce que le rêve, finalement, l'objectif paraît insurmontable et en fractionnant les petits pas, ben, c'est beaucoup plus abordable et c'est plus simple de sortir de sa zone de confort pour le faire. Ce qui revient à peu près au même. Hein,
mais c'est exactement
ce que
ça, Charlotte. Tu résumes très, très bien.
Pas à pas, on se rapproche du but et c'est comme ça qu'on arrive à
exactement,
faire
exactement.
Des grandes choses.
Très bien résumé, Charlotte. Merci.
Bon, Anita, quel sera ton prochain défi ? Tu nous le dis ?
C'est complètement en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Mais en fait, donc là, oui, j'ai un prochain défi, donc qui est donc novembre 2024, toujours au Népal, mais cette fois, on va faire un 6100. Donc ça veut dire zone de danger, ça veut dire qu'il n'y a plus de lodge. À 5000, on n'est plus dans des lodges, donc là, on va bivouaquer dans la neige, dans la glace.
Dans le froid.
Et donc là, ça va être très difficile. Si je ne peux pas y arriver, c'est pas grave. Mais au moins Kamel, mon mari, il faut qu'il arrive et qu'il plante mon drapeau aux 6100 mètres. Hein.
Mais quelle leçon d'inspiration pour 2024. Merci infiniment, Anita, d'être venue partager ta vie et tes défis.
C'était
à ce
un
micro.
Plaisir, Charlotte.
Et vous, quel sera votre prochain Everest ? Le défi est lancé.